Évangile de Jean, chapitre 8, les versets 30 à 37, et c'est à la page 1201. Comme Jésus disait cela, beaucoup crurent en lui. Alors il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. » Ils lui répondirent, « Nous sommes la descendance d'Abraham, et nous n'avons jamais été esclaves de personne. Comment peux-tu dire, vous deviendrez libre ?»« en vérité, je vous le dis, » leur répliqua Jésus, « toute personne qui commet le péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne reste pas pour toujours dans la famille, c'est le fils qui y reste pour toujours. Si donc le fils vous libère, vous serez réellement libre. Je sais que vous êtes la descendance d'Abraham. Pourtant, vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne pénètre pas en vous.
Comment comprendre cette petite expression « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre ». Complot, c'est un film qui remonte à 97. Alors vous dites 97, c'est loin. Il y en a ici, ils n'étaient même pas nés. Mais sachez que j'aurais pu prendre un film en noir et blanc. J'aurais pu aller encore plus loin dans le temps. 20 ans, c'est pas si loin après tout. Et Complot, c'est l'histoire d'un chauffeur de taxi qui croit en toutes sortes de complots fumeux et qui, en tant que chauffeur, en parle avec ses clients. Il écrit aussi des dossiers. Il en parle aussi à une avocate dont il est secrètement amoureux. Et à un moment donné, il se fait kidnapper, interroger. Et une fois libre, il réalise qu'il a dû mettre le doigt sur quelque chose de vrai. Et c'est un peu le fil conducteur de ce film, « La vérité vous rendra libre ». Il s'agit d'une vérité qui le concerne et qu'il va découvrir. Je ne vous en dis pas plus, ça, si jamais vous voulez regarder. Mais il est fait référence dans le film au fait que cette petite expression, elle se trouve dans le hall d'entrée du siège de la CIA à Langley. Et ça, c'est vrai, hein. Ça, c'est vraiment vrai. Hein. C'est la vérité vraie. Alors vous voyez une image de cela. Est-ce que, et là on comprend que la vérité vous rendra libre, c'est un peu comme si les services secrets travaillaient pour dévoiler des secrets qui vont permettre au peuple américain de rester libre, de ne pas être pris de court par une domination étrangère ou autre. Mais est-ce que c'est là la signification de cette phrase que Jésus prononce? Est-ce que c'est là ce qu'il veut dire? Et dans un sens, on pourrait dire qu'il y a une part de vérité qui s'applique à beaucoup de domaines dans cette petite expression. On peut penser peut-être aussi à un système politique qui est corrompu, et lorsque la vérité éclate, la vérité rend libre. Un système économique corrompu, pareil. On peut peut-être l'étendre aussi à des différents domaines de la science, la physique, l'astronomie, la géographie. Pensez par exemple à la découverte d'un nouveau continent ou du fait que la Terre est un globe, ça a permis des découvertes et une certaine liberté qu'on pourrait appliquer à cette phrase. Mais est-ce que c'est vraiment là le sens que Jésus veut donner à cette phrase? Dans la bouche de Jésus, est-ce que c'est là ce qu'il entend? Dans les minutes qui viennent, on va tout simplement essayer de comprendre ce qu'il veut dire par « la vérité vous rendra libre ». Qu'est-ce qu'il veut dire? Et en fait, on a deux questions auxquelles il faut répondre. Libéré de quoi et libéré comment? Libéré de quoi, libéré comment? C'est un peu les deux questions qu'on va relever dans ce texte. Plus qu'une affirmation qui s'applique à tout et n'importe quoi ou une philosophie vague, Jésus l'applique à quelque chose en particulier, mais c'est une affirmation qui nous concerne tous personnellement, selon Jésus en tout cas. Avant de se lancer, il y a quand même une difficulté dans le texte qui doit être levée. Les échanges qui ont eu lieu se terminent avec le commentaire de Jean qui écrit cet évangile au verset 31. Comme Jésus disait cela, beaucoup crurent en lui. Alors, vous direz, mais où est la difficulté? La difficulté, c'est qu'en fait, tout l'objectif de Jean dans son évangile, et il le dit à la fin, c'est que les gens croient en Jésus. C'est ça son objectif. Ici, on a beaucoup de gens qui croient en Jésus. Mais qu'est-ce qu'on réalise ensuite? C'est que la majeure partie d'entre eux vont se sentir indignés, offensés de ce que Jésus parle d'eux en termes d'esclavage, d'esclaves. Et la haine vis-à-vis de Jésus va être telle qu'ils vont vouloir le lapider. La difficulté qu'on a, c'est est-ce que c'est une foi là qui est relevée, qui est authentique, ou est-ce que ce n'est pas une foi authentique ? Autrement dit, on est forcé de constater qu'il y a eu une certaine foi, un certain intérêt pour Jésus, pour ce qu'il avait à dire, mais il faut contraster avec une foi qui va jusqu'au bout de ce qu'il dit, qui va jusqu'au bout. Et ce n'est pas la première fois qu'on voit ça dans l'évangile de Jean. Si on regarde rapidement, au chapitre 2, on lit que beaucoup crurent en lui à cause des signes miraculeux qu'il accomplissait. Mais Jean poursuit avec un petit commentaire, disant que Jésus ne se fiait pas à eux parce qu'ils savaient ce qui se passait dans leur cœur. Autrement dit, ils sont impressionnés par les miracles, mais ça n'ira pas beaucoup plus loin. Pareil, et peut-être encore plus similaire à notre texte, au chapitre 6, on a une foule qui s'intéresse à Jésus, qui veut suivre Jésus, mais au fur et à mesure qu'il dévoile son identité, ce que ça signifie de le suivre, ben les gens s'en vont. Et pareil avec notre texte, il est dit au départ ici que beaucoup crurent en lui, mais au fur et à mesure qu'on avance, quand il s'agit d'écouter Jésus jusqu'au bout, eh ben, ils ne sont pas prêts à l'entendre. Au point même, et Jésus le relève, qu'ils veulent le tuer, le faire mourir. Pourquoi est-ce que c'est pertinent d'entendre ça ce soir ? Alors qu'à l'occasion de baptême, pourquoi est-ce que c'est pertinent de parler de cela ? C'est intéressant de relever que Jésus n'est pas là pour faire du chiffre. Jésus n'est pas là pour faire du chiffre. Si c'est vrai que Jésus, comme Jean, on se désire que le plus grand nombre entende son message et qu'ils y répondent favorablement, Jésus n'est pas là pour tout simplement se satisfaire d'un grand nombre de gens qui le suivent. C'est lui qui provoque cette dissémination, qui les remet en question. Il ne veut pas n'importe quelle foi, un dénominateur commun le plus faible possible, une foi vague. Non, il veut une foi authentique. Et c'est lui qui le met en évidence. C'est pertinent aussi de le relever pour Fatoumata et puis Valentin, de sorte que vous sachiez ce que va être une vie de disciple. Qu'est-ce que c'est que de suivre Jésus ? C'est intéressant aussi pour toute personne qui se dit croyante, qui se dit chrétienne, et qui va être interpellée ici par Jésus en disant « Est-ce que c'est vraiment votre cas ? Est-ce que vous êtes vraiment disciple de Jésus ?» C'est intéressant aussi pour quelqu'un qui est peut-être simplement curieux et qui s'intéresse vaguement à Jésus. C'est bon de l'entendre dès le départ, suivre Jésus. Ça signifiera l'écouter jusqu'au bout dans ce qu'il a à dire. Ça n'ira pas simplement de se dire, Jésus, il peut déjà s'estimer heureux que je donne un peu de crédit, que je lui donne un peu de mon temps, il peut déjà être content que je fasse ce pas-là. Il n'en a pas grand-chose à faire d'une fois qu'il en resterait là. Et même, il veut provoquer une interpellation, une invitation à réaliser que la foi dont il parle, c'est une foi qui est authentique et qu'il écoutera jusqu'au bout. Alors, qu'est-ce qu'il entend par être son disciple ? On revient aux questions, libéré de quoi, libéré comment ? Alors on commence avec la première, libéré de quoi ? En parlant ici de liberté, il est possible que l'un ou l'autre se dise, en fait, moi je pense à la foi chrétienne, et c'est marrant, je me dis précisément l'inverse. Je me dis précisément que la foi chrétienne, c'est l'inverse de la liberté. Allez, je vais mettre les pieds dans le plat, parlons de sexualité. La vision chrétienne de la sexualité, est-ce que ce n'est pas l'inverse de la liberté ? Est-ce que ce n'est pas quelque chose d'étroit, de contraignant, quelque chose qui est resserré comme un emprisonnement ? On pense à la différenciation des sexes, vivre des relations sexuelles dans le cadre d'un mariage, vivre dans l'exclusivité de cette relation, s'abstenir de sexe en dehors du mariage ? Est-ce que ça, ce n'est pas se priver de liberté, précisément ? Dans un livre qui s'intitule « La tyrannie du plaisir », Jean-Claude Guibaud, ancien journaliste au Monde, fait plusieurs citations et contraste deux perspectives sur la liberté et sur la question sexuelle. Il commence avec la conception courante de la liberté en lien avec le sexe. Nous jugeons toutes les valeurs tournant autour de la constance, de l'engagement, de la durée, comme si elles relevaient d'une servitude volontaire devenue scandaleuse. Le plaisir, le désir, le bonheur lui-même sont désormais associés au nomadisme, à l'errance. Et un peu plus loin, extraordinairement pourtant, nous acceptons de nous soumettre dans le même temps à d'autres sortes de fidélité qui, dans le passé, eussent été jugées trop contraignantes. La fidélité à un projet professionnel, par exemple, la fidélité à soi-même contre vents et marées, la fidélité groupusculaire ou tribale, et bien entendu la fidélité à ses propres penchants. Selon cette perspective, la première conception de la liberté, il faut suivre ses penchants, suivre ses passions, suivre ses désirs. Mais remarquez que sous sa plume, il relève que c'est aussi une soumission, c'est aussi avoir un maître. Ses passions, précisément. Et il présente ensuite, les peines avec les P et les S, il présente ensuite une autre conception de la liberté. Pour les anciens, en effet, qu'ils fussent chrétiens ou platoniciens, la liberté humaine ne résidait pas dans cette fidélité au désir, mais au contraire, dans notre capacité à leur désobéir. C'était la maîtrise de soi, et non l'abandon aux pulsions qui était assimilé à une liberté active. Qui est libre ? Qui est libre ? Celui qui suit ses passions ou celui qui peut les maîtriser ? Et c'est un peu le genre de renversement de perspective que Jésus opère ici. Il y a un choc. C'est un peu comme un parloir dans une prison. Il y a quelqu'un qui vient visiter, il y a quelqu'un qui est en prison. Mais au moment où on se retrouve dans le parloir, la personne, il y a une vitre entre les deux, la personne qui est d'un côté se dit qu'elle est libre et la personne de l'autre côté est en prison. Mais la personne de l'autre côté, elle se dit l'inverse. Elle se dit, non, c'est pas moi qui suis en prison, c'est toi qui es en prison. Alors vous dites, c'est UBS, qu'on devrait savoir où on est. Mais c'est un peu le choc qu'on a ici. On l'entend dans l'échange avec Jésus, ils sont choqués par ce que Jésus dit. On l'entend dans leur réaction quand ils parlent de liberté. Ils disent, mais nous sommes de la descendance d'Abraham, nous n'avons jamais été esclaves de personne. Comment peux-tu dire vous deviendrez libre ? Qu'est-ce qu'ils entendent par nous n'avons jamais été esclaves de personne ? Est-ce qu'ils entendent cela sur un plan politique ? Autrement dit, ils n'ont jamais été esclaves de personne ? Probablement pas. Probablement pas, parce que le peuple qu'il a en face de lui, dans son histoire, a été, attention, asservi à l'Égypte, la Syrie, Babylone, Grèce, Syrie, et à l'heure actuelle, enfin l'heure où Jésus leur parle, ils sont soumis à Rome. C'est probablement pas sur un plan politique qu'ils se disent, mais nous ne sommes esclaves de personne. Et si c'était sur un plan spirituel, ça colle mieux avec la référence à Abraham, ils disent, nous sommes la descendance d'Abraham. Ce qu'il nie, c'est d'être spirituellement esclave. Ils se disent libres. Nous, on n'est pas esclaves sur un plan spirituel. On a Abraham comme ancêtre biologique. On est spirituellement bien sous tout rapport. On n'a pas de problème avec le mal, la corruption. Et pour les aider à percevoir leur esclavage, Jésus leur dit, verset 34, « en vérité, je vous le dis, le répliqua Jésus, « toute personne qui commet le péché est esclave du péché. » Il parle « en vérité », il veut mettre du poids à ce qu'il va dire. Le terme « péché », c'est peut-être connoté pour vous, « péché mignon »,« petite entrave à la loi ». Mais on remarque ici que pour Jésus, c'est beaucoup plus chargé comme terme. Pour un commentateur, l'esclavage dont il est question, ici, c'est un égocentrisme qui nous pousse à vivre pour nous-mêmes, centré sur nous-mêmes. Ou dit autrement, c'est un état de révolte par rapport à Dieu qui nous pousse à nous dévouer à quelque chose d'autre qu'à lui, à quelque chose de créé plutôt qu'au créateur. Se détourner de Dieu, c'est choisir quelque chose d'autre, avoir un autre maître, se soumettre à quelque chose d'autre. Et ça, on revient à ce que disait Jean-Claude Guibaud. Si on On suit ses propres passions. Ce n'est pas qu'on est réellement libre, c'est qu'on devient esclave de nos passions, nos pulsions. Et qu'on devient peut-être esclave d'une trajectoire professionnelle, soumis à ce projet-là, et tout est sacrifié pour cela. Ou alors soumis à un patrimoine qu'on doit amasser, et les choses sont sacrifiées pour cela. L'intérêt du passage, ici, c'est que ce n'est pas seulement, et vous vous dites peut-être, ben, est-ce qu'on est en train de me parler à moi ? On va parler à tout le monde ici. Parce que c'est même à des gens très religieux que Jésus parle. Les gens qu'il a en face de lui sont très religieux. Et pour ceux qui étaient là, dans la série qu'on a fait sur Romains, vous vous souvenez, l'apôtre Paul, lui-même, quand il écrivait dans le chapitre 7 aux Romains, il disait « En effet, je ne fais pas le bien que je veux, mais je fais au contraire le mal que je ne veux pas. » Et il dit un peu plus loin « Malheureux être humain que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort ?» Même avec des bonnes intentions, même avec quelqu'un de très religieux qui veut suivre la loi de Dieu, il doit constater qu'il est esclave et qu'il retombe. Et là encore, peut-être vous vous dites, mais non, c'est trop fort. Esclave, c'est un terme trop chargé pour parler de notre réalité. C'est trop fort. On peut penser qu'on vit de manière juste. Mais prenez juste une règle de Jésus, un principe. Parce que quand on n'est pas confronté à un test, on peut se dire beaucoup de choses. Moi, j'ai 40 ans et je peux me dire que dans ma tête, j'ai 20 ans. J'ai 20 ans, je cours comme quand j'avais 20 ans. Mais vient le moment où il faut courir après un bus ou courir pour prendre un train, eh bien, on ne court pas comme quand on avait 20 ans. Et c'est un peu pareil ici, si on ne se confronte pas à une règle, à un principe, à un test, eh bien, on peut se dire beaucoup de choses sur soi-même. Prenez une règle que Jésus prononce en Matthieu 7. « Tout ce que vous voudriez que les hommes fassent pour vous, vous aussi faites-le de même pour eux. » Ça paraît une très bonne règle, un très bon principe, quelque chose qui serait magnifique à vivre en société. « Tout ce que vous voudriez que les hommes fassent pour vous, vous aussi faites-le de même pour eux. » Est-ce qu'on serait capable de vivre ça une seule journée ? Une seule journée. Quelqu'un dans votre entourage vous annonce une bonne nouvelle et vous vous en réjouissez comme si c'était la vôtre. Quelqu'un vous parle mal, mais vous voulez croire que ce n'était pas mal intentionné. Vous n'allez pas réagir comme si c'était mal intentionné. Quelqu'un vous dépasse dans une file ou en voiture et il fait un simple geste pour s'excuser. Et là, paisiblement, aucune amertume, aucun ressentiment. Vous pardonnez. Vous le croyez. On refuse de parler mal de quelqu'un alors qu'on est dans un échange, on parle de quelqu'un et vous dites non, je ne veux pas parler de lui, il n'est même pas présent. On est capable de le vivre une seule journée face au test. On peut être dans le déni complet, mais face à la réalité de ce que Jésus dit, dans un seul de ses principes, on en est loin. On est esclave du péché. On peut le nier, mais un peu comme n'importe quelle addiction, comme une forme d'esclavage. On peut être dans le déni, mais la réalité est bien là. On est esclave du péché. Libéré de quoi ? Eh bien, du péché, d'une vie centrée sur nous-mêmes, d'une vie où Dieu n'est pas considéré comme Dieu, mais où nous choisissons nos propres dieux. Alors, libéré comment ? Et c'est la deuxième partie. Comment est-ce qu'on va envisager cette libération ? Si on reconnaît qu'il y a un esclavage au péché, comment est-ce que la liberté est envisagée ? On a peut-être la représentation de la foi chrétienne un peu comme une prison. On a une dette vis-à-vis de la société, on a des années à purger, et on se dit que, en fait, si on se comporte bien en prison, si on remplit les conditions, on nous dit à l'entrée de la prison les conditions, si on les remplit bien, eh ben on va sortir plus tôt. On va pouvoir avoir une remise de dette. Est-ce que c'est comme ça ? Et peut-être vous lisez, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Mais remarquez que ce n'est pas un temps futur que Jésus donne. Si vous demeurez dans ma parole, vous serez vraiment mes disciples. Ce n'est pas ça qu'il dit. Ça serait comme si vous avez la capacité de demeurer dans ma parole, si vous arrivez à vous attacher à ce que je dis, alors vous serez mes disciples. On verra s'il y a une remise de peine. Mais ce n'est pas ça. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Ça, ce n'est pas le moyen de la libération. C'est tout simplement un moyen de s'assurer qu'on est dans la foi en Jésus. C'est tout simplement un moyen de le vérifier. Demeurer dans sa parole, rester attaché à sa parole. Et Valentin, Fatoumata, ça c'est une chose qui est à la fois frappante et encourageante pour vous deux, le désir que vous avez eu d'étudier la parole, que ce soit de venir ici à la rencontre du dimanche soir, ou la rencontre découverte, mais aussi sur un plan personnel. Demeurer dans cette parole, c'est une caractéristique d'un véritable disciple, mais qui se voit dans la durée. Alors on va faire comme si on était le mardi soir. Le mardi soir, on a fait l'évangile de Marc, et dans cet évangile de Marc, il y a une parabole d'une semence, des graines qui tombent à terre, mais dans différentes terres. Quatre types de terres. Première, c'est le chemin. Et là, les graines, elles sont tout de suite prises par les oiseaux qui viennent les manger. Autrement dit, elles prennent par racine. Deuxième terre, c'est une terre avec des cailloux, des pierres. Ça prend racine, ça démarre. Mais au moment de la sécheresse, ou du soleil qui frappe, l'épreuve, selon Jésus, ça ne tiendra pas. D'autres, elles tombent au milieu des broussailles, des ronces. Elles poussent aussi, mais elles sont étouffées. Étouffées, selon Jésus, par l'attrait des richesses, les soucis de ce monde. Et là, la quatrième terre, c'est une bonne terre où la graine tombe, elle pousse et elle-même, elle produit du fruit et du fruit en abondance, des épis qui produisent 50, 100, etc. Et qu'est-ce qui caractérise cette dernière terre ? Eh bien, c'est l'écoute, selon Jésus. Une écoute qui se vit dans la durée, constante, persévérante. Elle continue cette écoute. C'est une manière, dans la durée, de vérifier si on est un disciple de Jésus, que de voir si on est à l'écoute de cette parole dans la durée, ou si on va simplement l'écouter pour un temps, pour l'épreuve, ou pour l'attrait des richesses et qui est ensuite abandonné. Jésus donc met dans un premier temps la caractéristique de ceux qui sont ses disciples, demeurer dans sa parole. Mais qu'est-ce qui libère alors de cet esclavage ? Il faut venir à cette expression de départ. Vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. C'est quoi cette vérité ? Libérer comment ? Quelle est cette vérité dont Jésus parle ? Le contexte est important pour comprendre ce qu'il veut dire. Contexte immédiat, mais aussi contexte plus large. Et on regarde au verset 35 et 36, Jésus donne une petite illustration. Il rentre dans l'image de l'esclavage et il rappelle qu'un esclave, dans une maison à l'époque, il n'est pas libre de son avenir. Il n'est pas libre de devenir ce qu'il veut, d'aller où il veut. Il est la propriété d'un maître. Il peut être vendu, il peut être racheté par un autre maître. Il n'est pas libre. Il contraste ensuite Jésus avec la condition d'un fils qui, lui, un fils dans une maison, est libre, libre de ses mouvements, libre de vivre son avenir. Et il conclut par ce petit commentaire, « Si donc le fils vous libère, vous serez réellement libre. » Si donc le fils vous libère, vous serez réellement libre. Le fils qui a toute autorité, c'est lui. Le Fils de Dieu que Jean veut dévoiler tout au long de son évangile, qui a autorité, c'est lui qui libère. Et quand on regarde à lui, on voit une vérité qu'il incarne, une vérité qui dévoile nos ténèbres parce qu'il est la lumière, une vérité qui va aller jusqu'au bout, à dénoncer un procès coupable. Quand Pilate lui dit « Qu'est-ce que la vérité ?» Il a la vérité juste en face de lui. C'est lui qui est parfaitement juste et qui vient dénoncer notre mal, mais qui en même temps, c'est qui la vérité ? C'est celui qui prend la condition d'un esclave à la croix, qui meurt comme un esclave pour payer notre rançon, pour nous libérer. Sa mort à la croix est vue comme le paiement d'une rançon, d'une dette. Jésus dira lui-même au chapitre 14, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » La vérité, c'est lui qui va l'incarner. Et c'est cette vérité-là qui nous rend libres. Libérés comment ? Libérés par son Fils, par le Fils de Dieu, parce qu'il a autorité. Et il va falloir, avec Jean, découvrir tout ce qu'il a fait pour incarner cette liberté. Et pour demeurer en lui, il va falloir rester attaché à sa parole. Et c'est ça qui va tout simplement témoigner qu'on est ses disciples. Ce soir, et je terminerai avec cela, on peut imaginer plusieurs types de situations. Il y a peut-être quelqu'un ici qui vit avec le sentiment qu'il porte un poids de ses fautes, conséquence de ses erreurs, un empêtrement tel qu'il ou elle a le sentiment qu'il n'y a pas d'issue. Il n'y a pas d'issue. Le Fils est la vérité. Il est celui qui a l'autorité. Si la libération dépendait de nous, alors effectivement, il n'y aurait aucun avenir. Mais lui, il a l'autorité pour nous libérer de nos esclavages. Quelqu'un pourrait avoir entendu tout ceci et pour la première fois se dire, mais j'avais jamais vu que je pouvais être esclave. J'avais jamais pensé que je pouvais être esclave. Et Jésus veut bien, effectivement, nous interpeller. Et si on réalisait que même une forme d'esclavage à une vie très religieuse où on veut s'élever par une libération personnelle, une rédemption dont on est l'auteur, elle mène nulle part. C'est un autre esclavage. Et si nous aussi, on donnait à Jésus cette écoute et on s'attachait à lui parce qu'il est la vérité, parce qu'il a autorité en tant que Fils de Dieu pour nous libérer. Fatoumata, Valentin, ben c'est l'occasion pour vous de réaliser que c'est lui qui vous a libéré. Parce qu'il a l'autorité. Libéré du poids de vos péchés passés et de même de ceux qui sont à venir. Ce n'est pas vous qui vous êtes libéré, ce n'est pas vous qui avez été plus futé, plus rusé que les autres, mais c'est lui qui a révélé cette vérité et qui veut vous inviter à demeurer dans sa parole jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Amen.